général. Bonsoir Pierre Veil.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Des manifestations d'écoliers et d'étudiants partout dans le monde pour appeler à agir pour la défense de l'environnement. Une vague verte et ce slogan « Le climat change, pourquoi nous ne changeons pas ?» Nous irons dans un instant à New York, mais aussi en France, à Lyon. 3 mois de prison avec sursis requis contre Jean-Luc Mélenchon pour les incidents lors de la perquisition au siège de la France Insoumise. Nous serons en direct au tribunal de Bobigny. 7500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris demain lors des manifestations des Gilets jaunes, de forces ouvrières contre la réforme des retraites et la marche pour le climat. Explication du préfet de police de Paris dans ce journal. Les 1000 jours de captivité de Sophie Pétronin enlevée au Mali, son fils dénonce la passivité des autorités françaises. Au Quai d'Orsay, on répond que la discrétion est la condition de l'efficacité. Les sports, en ouverture de la Coupe du Monde de rugby à Tokyo, le Japon a battu la Russie 30-10. La France affronte l'Argentine demain matin à 9h15, horaire difficile pour les amoureux du ballon ovale, mais ils s'organisent, reportage dans un bar à Paris. Et puis la prescription culturelle du vendredi, un livre d'Andrew Ridker que nous recommande Ilana Mor-Youssef, « Les altruistes » aux éditions Rivage, « Une famille et ses névroses ».
France Inter.
Dans plus de 150 pays, des centaines de milliers d'écoliers et d'étudiants ont manifesté dans les rues lors d'une grève globale en faveur du climat. Sans doute la plus grande mobilisation jamais organisée pour appeler les adultes à agir contre la catastrophe climatique. De Sydney à Séoul, en passant par Manille ou Bombay, près de 5000 événements sur toute la planète. Un sommet spécial climat est prévu lundi prochain à l'ONU avec une centaine de chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Angela Merkel. L'Allemagne qui annonce qu'elle va investir 100 milliards d'euros d'ici 2030 pour la protection du climat et la transition écologique. Point culminant de ces manifestations aujourd'hui, c'est à New York en ce moment. Sur place, Loïc Loury.
Faire du bruit avant le sommet de l'ONU sur le climat, c'est l'objectif des dizaines de milliers d'adolescents et d'enfants au bas mot qui défilent cet après-midi dans les rues de New York. La ville a autorisé plus d'un million d'élèves à faire l'école buissonnière. Yann, notamment, en a profité. Il a 11 ans et il sait exactement pourquoi il est là.
Parce que je n'aimerais pas apprendre que Miami est sous l'eau dans 25 ans. Jusqu'à présent, les adultes n'ont fait qu'abîmer l'environnement.
Son copain Andy, pourtant, n'est pas franchement optimiste. Cette marche, aussi énorme soit-elle, ne fera pas, dit-il, bouger les adultes.
Techniquement, non. Parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux que nous, plus intelligents, et que leurs décisions sont les meilleures.
Et c'est une honte, estime Loupé, 21 ans, plus tout à fait une enfant.
C'est leur monde, ils vont y grandir. Les adultes, ils ne seront plus là. Si on ne change pas les choses, c'est eux qui vont souffrir.
Bonnie, elle regarde cette jeunesse avec bienveillance. Les adultes, dit-elle, n'ont pas le monopole de l'action.
Non, j'ai grandi lors des mobilisations contre la guerre du Vietnam. Et les enfants, les étudiants peuvent changer le monde.
Et c'est justement l'objectif de cette journée. New York, Loïc Loury, France Inter.
La grève pour le climat aussi en France. À Paris, 9400 personnes ont défilé, selon le cabinet de comptage indépendant Occurrence. À Lyon, cet après-midi, la jeunesse écolo a manifesté. Ils étaient plusieurs centaines dans les rues. Mathilde Imberti les a suivis.
Ils portent des gilets verts, Lyon Climat inscrit dans le dos, l'un des collectifs en tête de la mobilisation. Ils scandent des slogans type « pas de futur, pas de nature ». Noé, lui, pousse un caddie envahi de végétaux.
On a quelques plantes, on a du coup des petites pancartes aussi qui vont avec. Solidarité, c'est l'heure de la révolution aux arbres citoyens. L'idée de cette manifestation, c'était pas de s'apitoyer sur notre sort, comme on le fait à chaque fois, mais des pancartes du coup qui montreraient vraiment ce qu'on voudrait comme futur.
Noé est en seconde, il a fait grève ce vendredi, c'est sa troisième grève pour le climat. Une copine à lui, Julie, témoigne de leur engagement au quotidien. Ils sont au lycée Belmont en centre-ville.
Bah, par exemple, on a mis Ecosia sur tous les ordinateurs. C'est un logiciel de recherche qui permet de planter des arbres et aussi efficace que Google. On a fait un hôtel à insectes. On est en train d'essayer de changer de compagnie de cantine pour aller plus vers du bio et du local. Donc c'est plein d'actions locales qui sont à notre portée et qu'on peut faire pour changer les choses à notre échelle.
Les jeunes Lyonnais qui ouvrent ce week-end de mobilisation verte, demain c'est une maniforestation qui parcourra la ville. Une forêt de pancartes vertes attendue après les incendies qui ont ravagé l'Amazonie. À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et des centaines de manifestants aussi cet après-midi au Mans, à Reims, Nantes, Toulouse et Annecy.
Et on part au procès de Jean-Luc Mélenchon à Bobigny avec les réquisitions du parquet.
Oui, Claire, le ministère public a requis à la mi-journée 3 mois de prison avec sursis contre Jean-Luc Mélenchon, jugé pour les incidents qui ont émaillé les perquisitions au siège de la France Insoumise en octobre 2018. Les procureurs ont également réclamé une amende de 8000 euros à l'encontre du député de Marseille. Ariane Grissel. Vous êtes en direct avec nous au palais de justice de Bobigny. Bonsoir.
Bonsoir.
Ariane, ces réquisitions sont très inférieures aux peines encourues théoriquement par Jean-Luc Mélenchon.
Oui, sur le papier, ces faits peuvent être punis de 10 ans de prison. Pour l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, ces réquisitions donnent donc ce qu'il appelle le sentiment d'un pchit. Quelque chose, dit-il, de beaucoup moins impressionnant que la façon dont ça avait été présenté. Et surtout, à en croire le camp France Insoumise, ça montre qu'il n'y a pas grand-chose côté judiciaire. Sous-entendu, c'est bien la preuve que tout ceci est politique. Dans ces réquisitions, la procureure insiste sur la fonction d'élu de la majorité des prévenus. Il n'y a pas de liberté sans loi, lance-t-elle. Personne n'est au-dessus des lois. Et certains se doivent d'être exemplaires. Elle parle d'un procès hors normes, rappelle que l'ensemble des faits a été filmé. Son collègue, lui, insiste sur le préjudice d'image subi par les parties civiles. Une atteinte aux personnes, dit-il. La procureure conclut, c'est un gâchis politique, un gâchis humain de tous les côtés. Le ministère public demande également de 2 à 10 000 euros d'amende pour les autres prévenus.
Ariane, après les réquisitions, les plaidoiries des avocats des prévenus, des avocats qui ont plaidé la confusion lors de la perquisition.
Oui, c'est un argument qui est revenu chez les 6 avocats, cette impression de ne pas trop savoir pourquoi cette perquisition, pas d'interlocuteur précis, une désorganisation qui aurait nui à la sérénité, un sentiment d'injustice aussi. L'avocat de Muriel Rosenfeld, c'est de l'attaché de presse de la France Insoumise, s'en prend lui aux images. Je vous demande de ne pas vous laisser abreuver aveuglément par ces vidéos qui tournent en boucle. Même argument du côté de la défense de Jean-Luc Mélenchon, les images vous rendent paresseux, juge Maître Davy. Dernier mot aux prévenus, on n'y coupe pas, la salle d'audience redevient tribune politique quand c'est au tour du leader de la France Insoumise. Il accuse en creux le parquet d'avoir volontairement fait diffuser une vidéo sans son. Depuis le début, mes droits sont piétinés, je ne suis pas un accusé, je suis un condamné permanent. Vous me persécutez depuis des mois. Il conclut, relaxez-moi, pas pour moi, mais pour le service que l'on va rendre au pays. Il va devoir attendre un peu avant de savoir s'il a convaincu, jugement le 9 décembre.
Ariane Grissel, en direct au palais de justice de Bobigny avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. 5 syndicats de la RATP, à l'exception de la CGT, ont fait savoir qu'ils s'organisent d'ores et déjà pour une grève illimitée à partir du 5 décembre contre la réforme des retraites. Un total de 1175 bacheliers sont encore sans affectation à l'issue de la procédure Parcoursup. Précision aujourd'hui de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui sera l'invité demain matin de France Inter à 8h20 avec Éric Delvaux et Patricia Martin. Édouard Philippe a présenté dans le Nord aujourd'hui l'agenda rural du gouvernement. 173 mesures pour soutenir les petits commerces et la jeunesse dans ces territoires parfois frappés par un sentiment d'abandon souligné par la crise des gilets jaunes. 1000 cafés seront créés à moyen terme pour améliorer la socialisation en milieu rural. Autre mesure, des contraintes pour les opérateurs de télécom quand ils commenceront à déployer la 5G pour lutter, bien sûr, contre les zones blanches. Aux États-Unis, les réseaux sociaux, sous la pression du pouvoir politique, continuent de faire le ménage. Le réseau Twitter, par exemple, vient d'annoncer la suppression de milliers de comptes liés à des États étrangers et soupçonnés de répandre de fausses informations sur ce réseau social. À Washington, Grégory Phillips.
Déjà au printemps, Twitter avait annoncé la suppression de 160 000 comptes accusés de promouvoir le terrorisme. Cet été, 200 000 comptes chinois avaient subi le même sort, soupçonnés d'être des paravents du pouvoir de Pékin pour notamment influer sur la crise de Hong Kong. Le ménage continue avec la suppression de comptes Twitter tenus en Égypte et aux Émirats Arabes Unis, accusés de diffuser de fausses nouvelles et de soutenir de manière dissimulée le pouvoir saoudien. Également supprimé, 259 faux comptes espagnols, apparemment gérés par le Parti populaire. De ce côté-ci de l'Atlantique, Twitter mais aussi Facebook sont sous le feu des critiques et ont promis de tout faire pour repérer les faux comptes et empêcher des puissances étrangères d'influer par ce biais sur des élections. Le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, était hier encore au Congrès américain, puis reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump pour parler régulation d'Internet. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
C'est aujourd'hui, Pierre Veil, le 1000e jour de détention pour Sophie Pétronin, enlevée à Gao, au Mali.
Oui, cette médecin humanitaire française de 73 ans, aux mains de ses ravisseurs depuis le 24 décembre 2016. La dernière vidéo postée par le groupe terroriste qui la retient date du 11 novembre 2018. À l'époque, ce groupe affirmait que l'état de santé de Sophie Pétronin se dégradait. Son fils, Sébastien, ne cesse de dénoncer l'inaction des autorités françaises, le refus de la France de négocier la libération de sa mère. Franck Madvon, au ministère des Affaires étrangères, on réfute ces arguments. Paris affirme tout mettre en œuvre pour la libération de Sophie Pétronin.
Pour le fils de Sophie Pétronin, sa mère est un otage sacrifié. Il reproche aux autorités françaises de n'avoir pas su établir un canal de communication avec les ravisseurs qui seraient prêts à négocier, il en est convaincu. Une captive coûte cher et sa mère serait en mauvaise santé. Sébastien Chadeau Pétronin a été reçu au Quai d'Orsay il y a 8 jours par Éric Chevalier, directeur du centre de crise en charge du dossier. Les diplomates assurent comprendre sa douleur. Ils disent faire le maximum pour obtenir une libération, mais refusent d'en dire plus sur le travail mené, trop sensible. Leur discours est connu, la discrétion est la condition de l'efficacité. En clair, Paris estime que Sébastien Chadeau Pétronin ne rend pas service à sa mère en multipliant les interventions médiatiques et les déplacements sur le terrain. Le fils de l'otage a fait de nombreuses missions au Sahel, souvent avec l'aide de la France. Il souhaite maintenant se rendre à Gao, au Mali, une zone très dangereuse. Le Quai d'Orsay est informé du projet. Il faut d'abord veiller, dit un diplomate, à la sécurité du fils de Sophie Pétronin.
Franck Madvon. Donald Trump annonce de nouvelles sanctions contre le système bancaire iranien, accusé, je cite, de financement du terrorisme. Il affirme qu'il s'agit des sanctions les plus sévères jamais imposées à un pays.
Retour en France, Pierre, avec demain à Paris plusieurs manifestations au programme.
Oui, le 45e samedi de protestation des Gilets jaunes, la manifestation contre la réforme des retraites à l'appel de Force ouvrière, enfin la marche pour le climat. Face au risque de violence, la préfecture de police va mettre en place un dispositif sécuritaire identique à celui du 1er mai, avec le déploiement notamment de 7500 membres des forces de l'ordre, mais aussi des lanceurs d'eau et des blindés de la gendarmerie. Explication du préfet de police Didier Lallemand au micro d'Emmanuel Leclerc.
Il y a des groupes qui souhaitent perturber ces manifestations. Des gens qui manifestement veulent prendre des revanches sur je ne sais quelle journée. Je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des uns et des autres, c'est normal. Quand on lit ce qui se voit sur les réseaux, ce qui est produit sur les réseaux, ces appels à la destruction, à l'insurrection, à la casse, il y a de quoi être inquiet. Mais je voulais simplement dire que ce n'est pas une journée tout à fait normale pour nous demain, mais c'est une journée habituelle de ces samedis où on nous menace des pires destructions. Il y en a eu dans le passé. Vous avez noté que nous avions, depuis le mois de mars, pour ce qui me concerne au moins, changer notre stratégie et nos modes d'intervention. Nous serons mobiles, nous serons autonomes et nous serons en capacité, notamment grâce aux braves motos, à immédiatement faire cesser à quelque endroit de Paris que ce soit les troubles et les destructions susceptibles d'intervenir.
Didier Lallemand, le préfet de police de Paris. 14 militants animalistes jugés devant le tribunal correctionnel d'Évreux pour des dégradations qui ont visé 3 élevages. Ils leur ont reproché de s'être introduits dans 3 exploitations agricoles dans l'Orne, l'Eure-et-Loire et l'Eure pour, disent-ils, libérer de la volaille et des porcs. C'était le 14 avril. Un mouvement de panique au sein de l'exploitation de l'Eure avait causé la mort par étouffement de près de 1400 dindes. Les prévenus ont reconnu les faits et plaident la désobéissance civile. Des peines de prison ferme ont été demandées par le parquet. Procès suivi pour nous par Laurent Philippot.
Trouble à l'ordre public, risque évident de récidive, c'est ainsi que la procureure justifie ses réquisitions. Dominique Puechmaï requiert 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour Solveig Alloin et Julien Ouvry, qu'elle définit comme les porte-parole du collectif de boucherie abolie. Ils n'ont pas cessé de se répandre devant les micros et les caméras, dit-elle. Pour tous les autres prévenus, des peines de 2 mois à 18 mois avec sursis, l'interdiction de revenir dans l'heure pendant 5 ans et la saisie du matériel militant, dont 2 véhicules stupeurs sur le banc des prévenus. Pour le parquet, l'action qui a conduit à la mort de 1430 dindes à Jumel le 14 avril dernier était une action commando. Le parquet dénonce l'indécence des propos tenus dans le tribunal. Les prévenus ont par exemple comparé les élevages à des camps de concentration, les éleveurs à des nazis ou des capots, et l'avocat de la FNSEA a été traité d'avocat de la mafia.
Laurent Philippot. La justice européenne confirme confirme la classification du bisphénol A comme perturbateur endocrinien pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine. Elle rejette ainsi un recours de l'industrie du plastique qui contestait cette inscription faite à la demande de la France. Les sports, la 9e Coupe du monde de rugby, la première disputée en Asie, a été lancée aujourd'hui à Tokyo. 20 équipes réparties en 4 poules et la finale le 2 novembre à Yokohama. En match d'ouverture, le Japon a battu la Russie 30-10. Le 15 de France entre dans la compétition demain après-midi, heure locale, 16h15. Ce qui fait en France, avec le décalage horaire, 9h15 demain matin, horaire un peu particulier. C'est tôt pour les amateurs de rugby qui se préparent, comme a pu le constater dans un bar à Paris, Amaya Cazenave.
Dans ce bar du 11e arrondissement, ambiance vestiaire de rugby, des ballons sur les étagères et des maillots partout accrochés au mur. Alexandre est un habitué des lieux. En 2011, lorsque la Coupe du Monde s'était déroulée en Nouvelle-Zélande, il avait déjà mis son réveil très tôt et il est prêt à recommencer.
J'ai pris ma matinée pour le France-États-Unis. Les gens s'absentaient pendant la Coupe du Monde de foot, alors pourquoi je ne pourrais pas m'absenter pour la Coupe du Monde de rugby? Mais sinon, on essaie de regarder un maximum de matchs. Ouais.
Et pour satisfaire ses clients, Frédéric adapte ses heures d'ouverture. Fini les grasses matinées. D'habitude, son établissement est fermé le samedi matin. Demain, il ouvrira dès 8h.
Alors, on a fait une assiette avec un œuf sur le plat, deux petites tartines avec boisson chaude, un jus d'orange, du lard, bien entendu, du fromage, on est français. Et puis surtout, pour faire plaisir à nos clients, un petit saké.
50 personnes ont déjà réservé, dont un groupe de supporters du Stade français. David, le co-gérant, est déjà dans les starting blocks.
Nous, on a hâte de découvrir la troisième mi-temps qu'on va faire à partir de 11h du le matin.
À consommer sans modération ou...
Non, avec, pardon.
Avec, ce sera mieux parce qu'il va falloir tenir toute la durée de la compétition pendant plus d'un mois.
Oui, le 15 de France qui rentre dans la compétition demain matin à 9h15 face à l'Argentine, il faut le préciser. Le conseil culturel du week-end, c'est un livre, le premier roman d'un jeune prodige américain, Andrew Ridker, il a 28 ans. Avec Les Altruistes, il signe une comédie familiale et aussi une réflexion sur la générosité et la transmission. Impression de lecture d'Ilana Moryoussef qui a rencontré l'auteur.
Dans la famille Alter, c'est névrose à volonté. Et ce n'est pas la mère psychologue, Francine, qui peut y changer grand-chose, d'autant qu'elle meurt dès la page 35 et laisse derrière elle une famille encore plus bancale et désemparée. Elle meurt, mais ne disparaît pas du roman. Magnifique personnage de femme, Andrew Ridker.
La mère Francine est le dernier personnage que j'ai créé. Elle était importante pour créer cet équilibre si délicat entre des personnages peut-être drôles à la lecture, mais plus difficiles à aimer, et un personnage qui a la tête sur les épaules et qui apporte une présence plus fiable, plus humaine, plus aimante. C'est elle, la véritable altruiste dont parle le titre.
Privés de Francine, son mari Arthur, sa fille Maggie et son fils Ethan sont livrés à leurs obsessions. Des projets philanthropiques trop grands pour eux, un rapport aux autres désopilant et surtout une inaptitude à se parler dont Ridker fait son miel pour mener tambour battant cette saga familiale comique, mais pas seulement.
Il y a une préoccupation centrale dans le roman qui est que signifie être quelqu'un de bien et comment mener une vie morale. Pour moi, la comédie est un moyen très puissant d'établir un lien avec le lecteur. Quand vous riez, vous êtes relié.
Et peu importe au fond que nous soyons ces ridicules et touchants petits personnages qui tombent, se relèvent, tombent encore et persistent à se relever, pourvu que nous ayons quelqu'un avec qui parler.
Les Altruistes d'Andrew Ridker, traduit de l'anglais par Olivier de Paris, s'est publié aux éditions Rivage. Les Misérables, le film de Lajli sur les violences policières dans les banlieues, est le candidat de la France pour l'Oscar du meilleur film international. C'est le choix du Centre National du Cinéma. Il avait reçu le prix du jury au dernier Festival de Cannes. Premier long métrage de fiction de Lajli, Les Misérables sortira en France le 20 novembre. C'est un film inter. La cérémonie des Oscars, ce sera à Los Angeles le 9 février 2020. D'ici là, Claire Servagen. Le téléphone sonne dans quelques secondes.
Plus près de nous, effectivement. Merci beaucoup, Pierre. Bon week-end à vous. Dans un instant, le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Temps agité demain autour de la Méditerranée.
Oui, sur le Languedoc-Roussillon et sur les Cévennes, des pluies orageuses parfois intenses s'installeront dès le matin. Alors on surveillera les quantités de pluie, jusqu'à 80 mm en plaine, 100 à 150 sur le relief. Le vent d'est à sud-est jusqu'à 80 km à l'heure pourrait d'ailleurs gêner l'écoulement des eaux vers la mer. On aura des averses orageuses également sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'après-midi. De la Bretagne et du Cotentin vers les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, là ça deviendra un petit peu chaotique dans l'après-midi avec quelques averses, voire un coup de tonnerre.
Ailleurs, ce sera encore ensoleillé.
Oui, un soleil un petit peu plus voilé au fil de la journée, mais bien présent. Alors le matin, seulement 4 à 10 degrés du nord de la Seine jusqu'au nord-est, mais 10 à 20 ailleurs. Et puis il fera chaud l'après-midi, 24 à 30 degrés sur la plupart des régions. Une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne en soirée. Elle traversera tout le pays dimanche, alors que les pluies orageuses, parfois fortes, persisteront sur les régions du sud-est.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.